On y va, Michael? Et ce matin, je voudrais vous parler de la puissance de la parole. Quand on parle de la parole, on parle en général de la parole de Dieu. Et les versets que je vais citer nous montrent l'importance vitale de la parole de Dieu. Psaume 119, 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Romains 10, 17, nous l'avons déjà cité, « La foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et le mot en grec là, c'est pas le mot « logo », c'est-à-dire la parole à l'état cru, c'est le mot « rhéma ». La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole révélée de Dieu. Amen. Si une parole n'est pas révélée, elle peut devenir une occasion de chute, là où elle m'a été donnée, pour être une occasion de délivrance. Proverbe 13, 13, celui qui méprise la parole se perd. C'est pourquoi nous plaçons tant d'importance sur l'enseignement dans le cadre de cette œuvre Souffle Nouveau. Je crois que c'est important d'annoncer l'évangile, d'amener les gens à la connaissance du salut en Jésus-Christ, mais c'est important aussi ce qui suit après. Parce que Jésus reprochait aux pharisiens d'être allés par tout le monde pour faire des convertis et ensuite les rendre pires qu'eux et d'en faire des fils de la géhenne. C'est-à-dire des gens qui parvenaient à la connaissance du Dieu d'Abraham, qui parvenaient au salut, eh bien perdaient ce salut et devenaient pires que les pharisiens et repartaient sur le chemin de l'enfer. Donc faire connaître Christ, c'est important, mais une fois qu'on a connu Christ, alléluia, savoir se diriger dans les voies de Dieu, c'est important aussi. Sinon, on peut perdre tout l'acquis qu'on a reçu lors de notre conversion. Alors l'importance de la parole de Dieu met en évidence l'importance de la parole tout court, du principe de la parole, des paroles qui sont dans notre bouche. Jésus a précisé, Matthieu 12, 37, « Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Vous voyez l'importance, on l'a dit hier soir, de faire attention avec ce qui sort de notre bouche. D'ailleurs, il paraît que la langue, c'est la première chose qui est formée dans le fœtus. Il paraît aussi que le cerveau est dominé par les centres de la parole, et s'ils sont soumis à Dieu, toutes les autres zones du cerveau en sont automatiquement affectées. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, et c'est intéressant, il dit pas ne s'éloigne point de tes yeux. Ne s'éloigne point de ta bouche. Donc ça suffit pas de lire la parole, ça suffit pas de prendre connaissance de la parole, il va falloir à un moment donné parler en harmonie avec la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Vous savez ce que signifie le mot méditer en hébreu, ça signifie parler à soi-même. Souvent lorsque les gens ils se parlent tout seuls, on dit qu'ils sont un peu fous. Hein? Mais les chrétiens sont supposés être des personnes qui se parlent. Vous avez vu David dans les psaumes, il se parle. Il parle à son âme, il se remonte le moral. Et je voudrais vous dire que parfois dans la vie, vous êtes confronté à certaines situations où il n'y a personne pour vous remonter le moral. Et si vous ne savez pas vous le remonter vous-même, vous êtes dans de sales draps. Donc les chrétiens sont des gens qui apprennent à parler à eux-mêmes de la part de Dieu, la parole de Dieu, jour et nuit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu veut qu'on réussisse, Dieu veut qu'on ait du succès. Qui est-ce qui veut réussir ici? Qui est-ce qui veut échouer? Ah, parfois on a affaire à des chrétiens maso, alors il faut poser la question. Hein? Oui, vivement une bonne persécution. Non, pas besoin de prier pour, ça vient tout seul. Les problèmes, ils viennent tout seuls dans la vie. Il n'y a pas besoin de prier pour ça. Vous avez une seule chose à faire pour que les problèmes arrivent, c'est vous lever le matin. La bénédiction n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus naturellement. C'est quelque chose qu'on doit faire venir. Par contre, la malédiction arrive naturellement dans ce monde. Et parfois, nous sommes très naïfs, nous pensons que la bénédiction va arriver toute seule. Non! Nous ne sommes pas dans un monde où c'est Dieu qui règne. La Bible nous dit le monde entier est sous la puissance de Satan. Si tu montes sur un arbre et que tu tombes, tu vas pas partir vers le haut. Tu vas partir vers le bas et tu risques de te faire mal, voire tu risques de te tuer. Pourquoi? Parce qu'ici-bas, ce n'est pas la loi de Dieu qui règne, c'est la loi de Satan. Amen. Je pense pas que si vous tombez d'un arbre au ciel, vous risquez de vous tuer. D'ailleurs, je pense même pas que vous puissiez tomber d'un arbre au ciel. Parce que c'est Dieu qui règne au ciel. Alors beaucoup de chrétiens ont cette idée que Dieu règne sur la terre. Eh bien, s'il règne, il sait bien mélanger les pinceaux. Non, le monde entier sous la puissance de Satan, et nous, les enfants de Dieu, nous sommes les envahisseurs. Nous sommes supposés marquer la différence et nous sommes supposés lutter pour notre destinée parce que notre destinée ne se met pas en place naturellement. Il va falloir lutter contre notre adversaire qui, lui, a une autre destinée pour nous. La destruction de nos rêves, la destruction de notre famille, la destruction de notre personnalité. Donc, il nous faut des chrétiens en colère. Nous le disons aussi sur l'enseignement sur les femmes, alléluia, il nous faut des femmes en colère. Le diable, il n'aime pas les femmes. Il n'aime pas les hommes déjà, mais croyez-moi, il n'aime pas les femmes. Vous savez pourquoi? Parce que les femmes ont reçu une merveilleuse promesse de la part de Dieu, c'est de lui écraser la tête. Nous, on a bien insisté dans nos églises sur le fait qu'elles ont été maudites, vous savez? Mais dans la Genèse, il n'est pas seulement question de malédiction, il est question de bénédiction. Nous avons un Dieu qui rattrape le coup, amen. Et c'est sur ces choses-là qu'on doit concentrer notre attention. Romains 10:10 nous montre comment on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans toutes les conséquences concrètes de notre salut, autant la guérison de notre âme que la guérison de notre corps, que la prospérité de Dieu. Vous savez que Dieu veut nous faire prospérer? Moi, je crois à la prospérité. Maintenant, je ne crois pas à une prospérité facile. Je crois qu'il faut semer avec larmes pour récolter avec chant d'allégresse. Alléluia. Donc, pendant ce week-end, on n'est pas là pour vous prêcher une parole facile. Ça va marcher tout seul. Non, dès lundi, le diable, il va attaquer. Il va venir voir si tu as bien reçu les enseignements. Le principe du salut repose sur deux points, le cœur et la bouche. Du salut découle toute chose. Et si le salut se saisit selon ce principe, tout ce qui découle du salut, qui est sous-entendu d'ailleurs dans le mot grec et dans le mot hébreu salut, eh bien se saisit selon le même principe. Le mot salut signifie autant la notion d'être sauvé, arraché des flammes de l'enfer, que d'être guéri dans son corps, que d'être délivré dans son âme et que d'être restauré dans tous les domaines de notre personne. Voilà ce qui est venu nous apporter Jésus-Christ. Pas seulement le fait de nous mettre sur le chemin du ciel, il est venu pour qu'on puisse saisir la victoire dans tous ces domaines de notre vie pendant le temps que nous passons sur cette terre. Le problème de beaucoup de gens n'est pas qu'ils manquent de foi, mais qu'ils ne savent pas la libérer. C'est comme une cuve qui est remplie d'eau. Si on ne sait pas ouvrir le robinet, on peut mourir de soif devant cette cuve. On peut avoir une cuve remplie de foi et ne pas savoir la vider. Dans Marc 11, 23, le Seigneur nous apporte un merveilleux enseignement sur la foi. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, pas seulement croit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit, là aussi, que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça commence pas par voir, ça commence par croire et dire. Amen. Alors je ne suis pas appelé à dire des choses que je ne crois pas, bien sûr. Mais si je crois des choses, je suis appelé à les dire. Parce que la Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. À cause de certaines influences, le mot confesser, vous savez, il évoque principalement l'idée de confesser ses péchés. Or, son sens est beaucoup plus vaste dans l'Écriture. Confesser signifie parler dans le sens de ou faire connaître. Si je confesse Christ, cela signifie que je parle de Christ. Confesser la parole de Dieu, c'est plus que réciter des versets par cœur, c'est parler chaque jour dans le sens de ce que je crois, en harmonie avec ce que je crois. Quand je dis « on est foutu », je remets inconsciemment en question cette vérité. Dans la vie chrétienne est indissociable de la confession. Amen. Vous voulez qu'on consacre nos bouches au Seigneur? On a commencé hier soir, on va appuyer ce matin sur ce point, d'accord? Les gens qui sont dans votre entourage vont en être d'ailleurs les premiers bénéficiaires. L'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu est un esprit, nous dit Jean. L'homme est un esprit qui fonctionne donc selon le même principe que Dieu. Et Dieu donne la vie aux choses par sa parole. Vous avez vu dans la Genèse, avant que les choses viennent à la vie, Dieu dit. Et les choses viennent à la vie. Dieu dit, Psaume 33, 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Jacques 1, 18, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il nous a engendrés par la parole. Donc, bibliquement, rien ne se fait sans la parole. Je ne peux pas me contenter de dire « je crois dans mon cœur, il va falloir que ça sorte d'une manière ou d'une autre par ma bouche ». Dans Jean 1, 1, il est dit « au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Et Jean précise « rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle ». Rien de ce que vous faites, mes amis, pour faire venir la bénédiction, ne peut se faire sans parole. Tout commencement que vous voulez avoir, eh bien, il va falloir pas seulement croire, il va falloir parler. Comme l'a fait Dieu lui-même, au commencement. Rien de ce que vous faites, consciemment ou inconsciemment, pour faire venir la malédiction aussi, nous l'avons vu hier soir, ne peut se faire sans parole, parce que la Bible nous dit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La bouche du juste, nous dit un autre proverbe, Proverbe 10, 11, la bouche du juste est une source de vie. Qui est juste ici? Si, si, vous êtes juste parce que vous avez été justifié par Jésus-Christ, pas parce que vous faites tout parfaitement chaque jour. Ok? Vous êtes des saints, vous n'avez pas besoin d'avoir une statue ou d'être canonisé pour être appelé un saint. Ça va, Sainte Bernadette? Sainte Bernadette, Sainte Christine, Saint Michael. On est tous des saints parce qu'on a été sanctifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc la bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Donc nous recevons en fonction de ce que nous croyons bibliquement et de ce que nous disons. Dans Romains 10, 10, il nous est précisé « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, bien sûr. » Et ailleurs, Proverbe 18, 20, c'est du fruit de sa bouche, pas de ce que dit l'autre, c'est du fruit de ma propre bouche. Souvent, nous voulons mettre la faute sur le pasteur, sur notre conjoint, sur les gens, mais la Bible nous dit que c'est du fruit de notre propre bouche que nous nous rassasions. Quelqu'un de négatif, de toute façon, il fera toujours lui-même empirer sa vie. Parce qu'il prononce des malédictions sur lui-même et des malédictions sur les autres. Donc, si quelqu'un doit être positif, c'est bien le chrétien. Amen. Nous n'avons pas besoin de ces livres qui sont en librairie. Comment devenir un homme positif? Parce que nous avons le livre des livres qui nous enseigne à veiller sur les portes de notre bouche. Amen. Alors, nous voulons devenir des personnes positives dans un monde où tout le monde parle de manière tellement négative. Nous voulons être de ceux qui prononce des bénédictions. Et nous nous rendons compte dans ce monde d'ailleurs que le diable a fait en sorte qu'il y ait toute une foule d'expressions qui sont dans le langage quotidien afin que les gens, sans s'en rendre compte, prononcent des malédictions les uns sur les autres et sur eux-mêmes. Oh, vous en avez des expressions. Oh, j'étouffe de rage. Ben, tu vas voir. Je suis à bout de nerfs. J'ai les nerfs en boule. Ah, ça va t'arranger. Il n'a pas la tête sur les épaules. J'ai plus ma tête à moi. Ben, retrouve-la vite, hein. J'en ai gros sur le cœur. Ben, tu vas avoir un infarctus si ça continue. Sans parler dans le sud, ça me fend le cœur. Je suis fichu. Je voudrais être mort. Ben, il y en a un qui t'entend, là, il va faire en sorte que tu sois vite mort. Ça me reste en travers de la gorge. Mais fais attention à midi quand tu manges le poulet. Je suis mort de peur. Ben oui. Je suis fou d'inquiétude. Je suis mort de fatigue. Ben quand tu vas t'endormir, fais attention, tu risques de pas te réveiller. Je suis rongé de remords. Je suis raide comme un piqué. Eh ben dis donc, détends-toi ce matin. Et confesse autre chose sur ta vie. Amen. Parce que là, tu es en train de te maudire. Ça me coûte les yeux de la tête. Ah ben c'est cher, hein. Si tu veux pas finir aveugle, change ton langage. C'est difficile à avaler. Ah oui. Mais il vaut mieux se débrouiller de bien l'avaler quand même. J'en ai plein le dos. Et le meilleur, je crois que j'ai la mort dans l'âme. Vous avez toutes les malédictions que les gens prononcent chaque jour? Et pour eux, c'est devenu normal? Celui qui utilise régulièrement ces expressions verra ces choses devenir peu à peu réalité dans sa vie et dans son corps. Il prononce des malédictions sur lui-même parce que les mots ont un poids et les mots ont une puissance. Nous avons vu hier soir que la définition de bénir et de maudire, c'est prononcer des paroles sur une personne, et si la personne reçoit ces paroles, il va lui être fait selon ce qui a été prononcé. Donc nous nous devons de veiller sur les portes de notre bouche. Vous savez, à un moment donné, j'ai remarqué que même en tant que chrétien, et peut-être justement en tant que chrétien, des personnes tombaient malades dans mon entourage lorsque je parlais durement sur elles. Lorsque je parlais durement sur ces personnes, eh bien elles tombaient malades au bout d'un moment. J'ai donc décidé de faire attention et de réaliser la puissance qui était dans ma bouche. Un jour, mon fils, il était dans la maison en roller et il avait tout fait pour m'énerver. Je me suis énervé, je lui ai dit une chose désagréable, je lui ai même donné un coup de pied dans les rollers. Eh oui. Eh bien, l'après-midi, il s'est cassé la figure en roller. Il a failli se casser le bras. Là, je me suis dit, fais attention, tu n'es pas sur cette terre pour détruire les gens qui sont autour de toi, tu n'es pas sur cette terre pour détruire les gens que tu aimes le plus. Est-ce que vous réalisez la puissance que nous avons dans notre bouche pour bénir, mais qui peut marcher dans l'autre sens? Regardez autour de vous, est-ce que les problèmes, les accidents peut-être qui surgissent dans votre famille, chez vos enfants, assurez-vous en priorité que votre caractère coléreux ou vos paroles mauvaises n'en sont pas la cause, je vous assure. Nos enfants sont les premiers à payer les conséquences de nos énervements et de nos paroles négatives. Je me rappelle un jour avec mon épouse, lorsque Naomi était petite, c'était un bébé, on était en train de la changer, et on s'est énervé, on s'est dit une parole désagréable, ce devait être elle qui me l'a dite. Et, à cet instant, Naomi, bébé, a sauté sur la tête de la table par terre. Elle ne s'est pas fait mal, gloire à Dieu. Mais là, j'ai réalisé que je devais faire attention à mon comportement. Et ça, je m'en rappelle parce qu'à partir de faits comme cela, j'ai pris des décisions pour le restant de ma vie. Mais les trois quarts des chrétiens que je connais, ils n'ont jamais pris de telles décisions. Amen. Est-ce que je ne suis pas la cause de mes propres malédictions? Amen. Au lieu de toujours chercher un responsable, parce que la Bible nous dit qu'il y a un pouvoir qui se trouve dans ma bouche. Amen. Il y a un verset merveilleux que je trouve très intéressant qui se trouve dans le Deutéronome. Regardez, Deutéronome 30, verset 11. Dieu dit à son peuple, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Et c'est vrai que nous, on a tendance à compliquer. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quel nouveau mystère de la parole il faut que je comprenne pour que ça marche, mon christianisme? Et Dieu continue, il dit, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Vous savez, parfois on se dit, ben, il va falloir que je voyage, que j'aille en Amérique, que j'aille dans tel endroit pour pouvoir enfin saisir cette onction et cette bénédiction. Ce n'est pas totalement faux, mais Dieu essaie de me faire comprendre ici que ce n'est pas si compliqué que ça. Parfois je me dis, il faudrait aller chercher dans l'équipe à Bénin quelqu'un qui vienne sauver notre pays. Et dans l'Écriture, le Seigneur nous dit qu'il cherche quelqu'un au milieu de nous. Alors pendant que je cherche là-bas, Dieu y cherche ici. Alors on se croise. Et Dieu essaie de nous décompliquer l'histoire en concluant ces passages en disant « C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi. » Dans ta bouche, ah, oh, ça ne peut pas être plus près. Et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Est-ce que vous saisissez ce matin la portée de ce verset? Dieu nous dit, c'est pas si compliqué. Va pas chercher toutes les techniques modernes. Va pas chercher un nouvel enseignement à la mode. C'est beaucoup plus près que ce que tu imagines. Et c'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Simplement, tu as besoin de te discipliner dans ce domaine. Dans le domaine de ce que tu crois et dans le domaine de ce que tu parles. Amen. Nous devons rendre des comptes de la manière dont nous utilisons ce pouvoir qui est dans notre bouche. Plus ce pouvoir est grand d'ailleurs, plus il y aura des bénédictions si nous l'utilisons bien et plus il y aura des problèmes si nous l'utilisons mal. Notre caractère indompté peut nous amener à libérer la puissance dans le mauvais sens ou libérer la mauvaise puissance. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Dans les paroles, libère des esprits. Qu'est-ce que c'est un esprit, un bon esprit? C'est un ange. Les anges sont des esprits qui ont été placés au service de ceux qui doivent hériter du salut. Qui doit hériter du salut ici? Donc vous avez des esprits, amen, qui sont placés autour de vous, mais qui vont agir et réagir en fonction de ce que vous dites. On y reviendra tout à l'heure. Par contre, il y a des démons aussi qui n'attendent que de vous entendre parler négativement parce que cela leur donne un droit de faire arriver les malédictions dans votre bouche, autour de vous. Il y a un passage dans l'Écriture d'ailleurs qu'on peut avoir du mal à comprendre au premier abord. C'est celui de 2 Rois de 24. On voit des enfants sortir au-delà du prophète Élisée et se moquer de lui. Et le prophète, il se met en colère. Et il est maudit, dites-moi, je ne pense pas qu'il y avait de quoi se mettre en colère et maudire ses enfants. Eh bien, aussitôt, il y a 2 ours qui sortent de la forêt et qui déchiquettent les enfants. Ça fait bizarre. Est-ce que ce jour-là, il a bien utilisé la puissance qui était en lui? D'ailleurs, par la suite, il est mort malade, Élisée. C'est rare qu'on trouve un prophète qui est mort malade. Ça fait réfléchir. La même puissance qui est dans ta bouche pour bénir, elle peut être utilisée pour maudire. C'est pourquoi, hier, je vous ai dit, un chrétien, c'est quelqu'un de dangereux. C'est un cadeau pour ce monde, mais si ça devient un cadeau empoisonné, je préfère avoir affaire à un inconverti qu'à un chrétien qui ne sait pas diriger sa langue. Vous me suivez?
Oui.
Personne ne veut partir en courant?
Non.
On continue?
Oui.
Ok. Donc nous sommes supposés veiller sur les portes de notre bouche. Alléluia. L'esprit auquel nous soumettons notre langue aura autorité sur le corps et sur notre vie. C'est lui qui nous vivifiera, un bon ou un mauvais esprit. Il nous mènera vers la vie ou nous mènera vers la mort. Parce que par les paroles de notre bouche, nous libérons des anges. C'est très important à comprendre, les anges agissent en fonction des paroles, dans des confessions qui sortent de notre bouche. La Bible dit, psaume 103:20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Donc c'est clair, les anges obéissent à une seule chose, c'est à la parole de Dieu. On est d'accord? Mais où se trouve sur la terre cette voix, cette parole de Dieu? Rappelez-vous Romains 18, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, qui reprend le passage de Deutéronome cité tout à l'heure. Ils obéissent donc à la parole de Dieu qui est dans notre bouche. Les paroles que nous croyons dans notre cœur et qui sortent de notre bouche, nos confessions, définissent l'action des anges à notre égard et à l'égard de nos bien-aimés. Et dans Nombre 14:28, le Seigneur dit encore, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Wow, je veux faire attention en sortant, comment je vais parler? Amen. Parce que je ne veux pas libérer des puissances de ténèbres. J'ai été placé sur cette terre pour libérer des anges. Ouh, ça donne envie de mettre la main sur sa bouche en sortant. Ça donne l'envie de réfléchir avant de parler. Ecclésiaste 4:5, si vous avez besoin d'un verset de plus, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'ange, ouh, il est pas mal celui-là, que c'est une inadvertance, pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Wow. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dites pas en présence de l'ange donc qui est chargé de faire réussir, n'est-ce pas, ou échouer tes projets. Donc nous armons le bras des anges de l'épée de l'esprit si nous parlons dans le sens de la parole de Dieu. Et je ne parle pas ici de réciter des versets toute la journée comme font certains. Ça, c'est une autre forme de religion. Je parle d'aligner sa manière de parler avec les vérités de la parole de Dieu, avec les choses que je crois. C'est pourquoi David dit « Ce qui sort de ma bouche n'est autre que ce qui est dans mon cœur. » Un chrétien est efficace lorsqu'il se trouve l'harmonie entre son cœur et sa bouche. Un chrétien eut un jour une crise cardiaque, il s'est retrouvé à l'agonie sur un lit d'hôpital, il avait des tubes partout. Il a senti au fond de lui que le Saint-Esprit le dirigeait à confesser que par les meurtrissures de Jésus-Christ, il était guéri. Et il a commencé à le faire et à développer cette confession. Et au fur et à mesure qu'il parlait, sa voix se fortifiait. Lui qui était très affaibli, qui arrivait tout juste à parler. Et il a continué encore à confesser ce passage de l'Écriture. Et soudain, il a vu apparaître un grand ange qui tenait dans sa main une grande épée. Et l'ange était en train de regarder derrière lui, derrière le lit. Et l'ange avait l'air en colère. Il a regardé une créature qui se trouvait derrière cette personne malade. Il a brandi son épée avec un regard terrible, comme des éclairs qui sortaient de ses yeux. Aussitôt, le sentiment de mort qui envahissait le frère qui était malade a disparu et il s'est retrouvé totalement guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un combat spirituel, mais ce combat spirituel, il dépendait des confessions qui sortaient de la bouche de cet homme. Ça ne suffisait pas qu'il soit sur le lit en train de dire « Seigneur, pourquoi tu as permis ça? La Bible dit que tu me veux du bien. Pourquoi tu ne me sors pas de là ?» En général, et vous le savez comme moi, ce genre de prière, ça ne marche pas. Et au bout d'un moment, on accuse Dieu parce qu'on se dit « Dieu, il n'a pas de compassion pour moi. » Et Dieu, lui, il attend qu'on mette en application sa parole. Parce que ce n'est pas loin, ce n'est pas compliqué, c'est dans ta bouche et dans ton cœur. En prononçant la parole, qui est une épée, la parole de Dieu, dit Éphésiens 6, 17, est une épée. Alléluia. Cet homme a mis l'épée dans la main de l'ange, lui permettant d'exercer un ministère de délivrance et de guérison à son égard. Wouh! C'est pourquoi attention aux paroles, aux prières idiotes aussi. Je vais me faire écraser un de ces jours. Ben, le jour où tu traverses la rue, il y a ton ange qui est là, qui est coincé, qui dit, ben, il a dit qu'il allait se faire écraser. Laissons-le se faire écraser, hein. Et quand tu arrives au ciel, tu dis, pourquoi tu ne m'as pas empêché de me faire écraser? Il te dit, parce que tu m'as commandé de manière détournée, mais tu m'as commandé de ne pas bouger. Au lieu d'aller dans le sens positif de la parole de Dieu, tu étais là avec toutes tes idées, je vais me faire écraser. La vie est dure. Seigneur, frappe-moi. Ben oui. Un jour, un gars, il a prié, frappe-moi pour que je devienne plus spirituel. Il était en train de travailler, il est tombé de l'échelle, il a fini à l'hôpital. C'est pas Dieu qui l'a frappé. Il a permis à Satan, par une prière idiôte, de le frapper. Parce que Satan, il rôde comme un lion rugissant autour de nous. Il attend les prières idiotes. Parce que les prières idiotes et les confessions idiotes lui donnent un droit. Après, on dira, c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia! Beaucoup de gens, même souvent sous prétexte de ministère de délivrance, et je crois la délivrance, parlent continuellement de délivrance et de démons. Ils ne se rendent pas compte qu'à cause de la puissance de la parole, ils prédisent le résultat inverse à celui recherché. Je me suis rendu compte que les gens qui sont le plus dans la délivrance, toujours les démons, c'est ceux qui ont le plus besoin de délivrance. C'est les gens les plus déséquilibrés souvent. À force de parler de démons et du diable, il donne plus de place et de force à ces derniers. Le diable, il aime qu'on parle de lui. Vous ne pouvez pas imaginer combien ça lui fait plaisir qu'on dise « Le diable m'a encore joué un tour aujourd'hui ». Quelqu'un disait « Le diable, il m'a encore caché mon torchon ». Un autre disait « Ah, priez pour que chasser l'esprit de carie ». Et quelqu'un lui a répondu « J'ai une parole de Dieu pour toi, lave-toi les dents plus souvent ». Le Seigneur confirmait la parole qui était dans la bouche des disciples. Dans la fin des temps, le réveil le plus puissant vient, et c'est souvent le sujet d'autres séminaires, mais cela va avec le fait que la connaissance augmente. Et c'est parce que la connaissance augmente que le réveil se répand en parallèle avec la foi qui vient de ce qu'on entend. Plus de connaissance nous permet d'avoir une foi plus puissante et des confessions plus puissantes. Au même point qu'il n'y a pas d'épidémie enrayée sans qu'on enseigne l'hygiène à une population, eh bien, on ne peut pas arrêter l'action de Satan si on n'apprend pas à parler dans un sens contraire à ce que Satan fait. Le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Vous savez, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ça ne sert absolument à rien. Il faut vraiment être précis là-dessus, de s'attendre le matin à ce que tout se mette à marcher tout seul. ça ne sert à rien. C'est comme si le matin, je me lève et puis je ne me rase pas et je me dis que comme je suis né de nouveau, eh bien, ça va se faire tout seul. Eh bien, non. Hein? Les chrétiens aussi, bon, mais puisque je suis né de nouveau, je prends tous les enfants qui viennent, eh bien, voilà, ils vont venir. Alléluia. Fais rien pour ça, vas-y. Donc, il y a une action à faire pour stopper le processus naturel qui existe sur cette terre. Amen. Si je ne fais rien, et ça a été la parole de Dieu à un homme de Dieu, un prophète qui s'appelle Kenneth Hagin, dans une vision, Jésus lui a clairement dit, si tu ne fais rien, rien ne sera fait. Ça vous est jamais arrivé d'attendre pendant des mois et il n'y a rien qui bouge. Parce que vous attendez Dieu et Dieu vous attend pendant ce temps. Donc on peut s'attendre longtemps comme ça. C'est pourquoi nous enseignons l'identité. Parce qu'il faut prendre de plus en plus confiance en soi pour pouvoir libérer la puissance de Dieu. Mais la plupart des gens, ils ont confiance en Dieu. Il n'est pas là le problème. Dites-moi, les 3/4 ou 90% des chrétiens que je connais ont confiance en Dieu. Mais ils n'ont pas confiance en eux. Et Dieu n'agit pas sur cette terre si ce n'est à travers des hommes et des femmes. Amen. Donc nous sommes appelés à libérer cette puissance qui est en nous. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ai donné le pouvoir de chasser. » Luc 19. Et comment se manifeste ce pouvoir? Eh bien, rappelons ce passage de Proverbes 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc il nous a donné un pouvoir, ce pouvoir se libère comment? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça sert à rien de dire « j'ai reçu autorité ». Eh bien, il va falloir apprendre à la libérer. Il va falloir parfois te lever la nuit et commencer à confesser certaines choses, proclamer certaines choses, t'immerger dans la proclamation, sinon c'est la dépression qui aura le dessus. Parce que la dépression est un processus naturel sur cette terre. C'est pourquoi lorsqu'on se convertit, on est supposé changer son langage. Il y a des choses qu'on doit cesser de dire. Lorsque Dieu appelle Jérémie, celui-ci lui dit « mais je suis trop jeune ». Et il avait raison. Humainement parlant, il était jeune. Et qu'est-ce que lui répond Dieu? Dieu lui répond, zut, alors j'avais pas vu. Excusez-moi, sur la photo, tu paraissais beaucoup plus vieux. C'est ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, ne dis pas, oh, comme Moïse, Seigneur, j'ai la langue embarrassée, je bégaye. Mais il n'avait pas vu Dieu. Zut, alors j'avais pas vu, dit Dieu. Il a dû avoir une erreur sur l'ordinateur au ciel. On m'avait parlé d'un Moïse qui bégayait pas. Bon, mais je vais choisir quelqu'un d'autre. Mais non, Dieu, il savait. Il connaissait tous tes défauts. Il savait ce qui fonctionne pas chez toi avant de t'appeler. À la rigueur, c'est une des raisons pour laquelle il t'appelle. Amen. C'est pour manifester sa gloire à travers ta faiblesse. Alors, si ce matin, vous vous sentez faible, vous remplissez les conditions idéales pour que Dieu puisse vous utiliser. Wouh! Amen. Votre confiance n'est pas en vous, de toute façon, qu'il faut la placer. C'est dans le Seigneur. Et quand vous libérez sa parole, c'est sa puissance qui est supposée se libérer. Ne dis pas, dit le Seigneur à Jérémie. Donc il y a des choses qu'il faut arrêter de dire. Et puis d'autres qu'il faut apprendre à dire et à confesser. Beaucoup de gens, malheureusement, disent ce qu'il ne faut pas et disent pas ce qu'il faut dire. Ils disent à leur femme combien elle les énerve et ne lui disent pas combien ils l'aiment. Alors là, ça fait partir les choses dans la mauvaise direction. Donc changer son langage, c'est arrêter de dire certaines choses, mais ça ne suffit pas d'arrêter de dire certaines choses. Il va falloir commencer à en dire d'autres. Amen. Tu aimes quelqu'un, mais il faut lui dire. Peut-être ta femme vient te trouver, elle te dit, tu me dis jamais que tu m'aimes, et tu vas lui répondre, mais il y a 10 ans quand on s'est marié, je te l'ai dit quand même. Eh bien, ça ne suffit pas parce qu'on a un diable de tous les jours. Vous avez un diable de tous les jours? Moi, il attaque tous les jours. Des fois, le matin, le midi, le soir. Donc, il me faut un Dieu de tous les jours. Il me faut une parole de tous les jours. Il me faut un je t'aime de tous les jours. J'ai besoin de sentir que mes enfants, mon épouse, elle-même, elle m'estime tous les jours. Amen. Et ça ne sert à rien qu'elle le cache. Parce que j'ai besoin de l'entendre. Amen. Souvent, on regrette des années après de ne pas avoir dit aux gens combien on les aimait et combien ils étaient précieux. Et nous terminons, il est important pour être utilisé par Dieu aussi d'être un homme, une femme de parole. Dans l'Ancien Testament, on se rend compte que la parole était tellement sacrée qu'une personne ne pouvait revenir sur sa décision. D'ailleurs, ils étaient sous des lois, sous l'Ancien Testament, et parfois même ils prenaient une décision, comme pour la fille de Jephthé. N'est-ce pas? Le père, par la décision de sacrifier une personne qui doit sortir des murs, une fois qu'il a la victoire, et c'est sa fille qui sort des murs. Eh bien, il aurait dû faire attention à ce qu'il disait. Et là, il n'aurait pas dû être aussi légaliste aussi. Vous voyez, sous l'Ancien Testament, la parole était tellement importante. On était indissociable de notre parole. C'était tellement important que si on prenait même une mauvaise décision, on allait jusqu'à l'assumer. Là, je ne pense pas qu'il aurait dû l'assumer. Mais il était légaliste. Il était coincé par ses paroles. Il était coincé par son esprit religieux. Il nous faut de même des hommes et des femmes au sein du corps de Christ de parole. Dans notre société, on n'est pas de parole. On dit une chose, on ne le fait pas. On dit qu'on viendra à telle heure, on ne vient pas à telle heure. On dit à nos enfants, eh bien, j'achèterai ça, on ne leur achète pas. Et après, ils n'ont plus du tout confiance en nous. Donc, si je dis quelque chose, je dois le faire. Il faut qu'on retrouve cela au sein du corps de Christ. Des gens qui sont de parole, des gens sur lesquels on peut compter. Le problème pour les pasteurs aujourd'hui, qui savent plus souvent dans une église sur qui compter. Quelqu'un prend une décision un jour, il a changé d'avis le lendemain. Il faut qu'on redevienne des hommes et des femmes de la parole. Même au Moyen-Âge, il y avait des ordres chevaleresques. Et certains étaient de véritables chrétiens. Vous savez, la parole c'était sacré. On préférait perdre sa vie que faillir à sa parole. Et moi, je veux bâtir avec des gens qui sont prêts à perdre leur vie plutôt que faillir à leur parole. J'en ai assez de travailler avec des gens, on ne sait plus où on en est. Amen. Parce que ta parole, c'est toi. Bibliquement, ta parole, c'est toi. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, la parole était avec Michael Réal et la parole est Michael Réal. Comment est-ce que je vais juger Michael Réal? Ça ne suffit pas que je le connaisse en tant qu'ami, je vais le juger en fonction de ce qu'il dit chaque jour. Et vous savez où une personne en est au niveau de la foi en l'écoutant parler. Au bout de la 10e confession négative qu'elle vous a apportée pendant le repas, vous dites, eh bien, dis donc, celui-là, même si je prie, ça ne servira à rien. D'abord, il va falloir enseigner. Il y a beaucoup de prières qu'on fait, il faut être honnête, elles ne servent à rien du tout. Parce que la prière doit être reçue avec foi. Amen. Alors parfois, on doit d'abord entendre la parole être prêchée. Le plus souvent possible d'ailleurs, pas seulement parfois. Et alors là, après, on prie et on libère sa foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est important d'arriver à l'heure. C'est important de ne pas médire. C'est important d'être sérieux avec tout ce qui concerne l'utilisation de la langue, en prenant en considération tout ce que nous avons vu. Donc consacrons nos langues, nos bouches à Dieu ce matin, comme des instruments de bénédiction et non de destruction. Je suis persuadé que hier soir, il y a des chaînes qui sont tombées. Mais je voudrais vous encourager à ce qu'elles ne vous soient pas remises sur le dos dès lundi. Parce que si lundi vous recommencez avec l'ancien langage, bien le diable aura de nouveau le même droit qu'il avait avant pour remettre ses chaînes. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne laissez pas de prise à Satan. Il ne nous dit pas, priez Dieu pour que tout s'arrange, priez le Père, suppliez-le, pendant 3 jours, il va finir par craquer et vous accorder ce que vous voulez. Non, Dieu, il est lent à la colère, riche en bonté, plein de miséricorde, il n'a pas besoin qu'on pleurniche, c'est un Père digne de ce nom. Rappelez-vous du frigo de Michael Réal. Il y a du beurre dans le frigo, tu peux mettre 2 couches, tout ce que tu veux. Amen. Simplement, il a besoin qu'on ne laisse pas de prise à Satan, parce qu'alors, Satan, il a des droits pour empêcher Dieu de nous bénir. L'apôtre Paul dit, ne laissez pas de prise à Satan. Une des meilleures façons pour que Satan ait une prise, nous venons de le voir, c'est de ne pas contrôler notre langue. Alors, je ne dis pas qu'il va falloir se mettre dès lundi à parler parfaitement. Oh, zut, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, je suis maudit pour les 10 ans à venir. Non, on ne va pas... Être légaliste aussi, ça vous arrivera encore de chuter, je vous rassure, ok? Mais vous vous perfectionnez de jour en jour, vous vous reprenez, vous vous excusez si vous avez dit quelque chose de désagréable à quelqu'un, vous vous excusez auprès de vous-même si vous vous êtes dit quelque chose de désagréable, je m'excuse de m'être traité de ceci et de cela, est-ce que je me pardonne? Oui! Amen! Et j'exagère pas vraiment! Parce que comment est-ce que Dieu peut nous utiliser comme un canal de sa gloire si on n'a pas une notion noble de nous-mêmes? Amen. Une nouvelle créature, née de nouveau en Jésus-Christ, est un être noble. Si je me traite de travers, la puissance de Dieu est automatiquement freinée pour se manifester à travers moi, parce que Dieu, c'est la noblesse. Le Saint-Esprit, c'est la noblesse, et il ne peut s'associer à des courants contraires. C'est pourquoi Jacques nous dit que la bouche, c'est le petit gouvernail d'un grand bateau. Et que par la bouche, je peux faire sortir aussi bien la bénédiction que la malédiction. Et la dualité, c'est justement mélanger les deux. Je suis au sein de l'assemblée, je crie tous les alléluia, amen, possible et imaginable. Et dès que je sors, j'ai un langage de charretier. Donc je court-circuite tout ce que j'ai fait pendant le séminaire. Amen. Donc le moment important, c'est quand vous sortez aujourd'hui. Pour continuer dans la lancée. Et vous avez, surtout ceux qui sont mariés, vous avez un cobaye parfait à côté de vous, sur lequel vous pouvez vous exercer à être gentil. Amen. À être doux. Parce que c'est souvent celui qui risque de vous énerver le plus parce que vous vivez 24 heures sur 24 avec. Alléluia. Chérie, je t'aime. Je voulais te dire, ouais. Non, mais, oui, t'es bien. Juste un petit pli, là, à la chemise. Mais vous alliez dire quelque chose de beaucoup plus grave. Qu'est-ce que t'as l'air crado avec ça, cette chemise que tu as mis. Alors, je ne dis pas que confesser positif, c'est commencer à mentir. Hein? Mais il y a une manière de le faire. Amen. Il y a une manière de le faire. Et je peux dire des vérités dans un esprit faux. Et ça ne va pas me justifier. Souvent, les gens disent « Oh, moi, je dis la vérité. » Ben, tu ferais mieux de ne pas la dire, parce que chaque fois que tu l'as dit, tu tues une quinzaine de personnes autour de toi. Oui, mais c'est la vérité. Ben, ça ne te justifie pas. La vérité qui n'est pas apportée dans un esprit de vérité, elle n'a pas besoin d'être exprimée. Amen. Ensuite, il y a la sagesse de Dieu. La vérité, il y a un moment parfois pour la dire. Si j'ai quelque chose à dire à Marie-Pierre, ce n'est pas le moment maintenant au micro. Marie-Pierre, il y a ça là dans ta vie qui me gêne. Je vais l'humilier devant tout le monde. Même si c'est la vérité, ça ne va ni lui faire du bien, ni vous faire du bien. C'est ce qui se passe avec certaines personnes. J'ai reçu une parole de Dieu. Et puis, ils la disent au moment où il ne faut pas. N'est-ce pas? Et ça casse tout. Ça fait encore plus de ravages. Et si Dieu t'a montré quelque chose qui n'allait pas chez ce frère, c'est pour que tu le prennes à part, en privé, alléluia, et que tu aies l'humilité aussi de lui dire, est-ce que tu le reçois? Est-ce que tu es d'accord? Mais pas que tu essaies de montrer à quel point ton ministère est grand en le faisant en public. Alléluia. Dans la manière, c'est important. Avec Dieu, il y a le fond, mais il y a la forme aussi. Et nous terminons par ce merveilleux, fantastique, extraordinaire verset. Je travaille le positif. Dans Ésaïe 59:21, Dieu parle de l'alliance qu'il passe avec son peuple. Et il nous est dit qu'elle est indissociable des paroles de notre bouche. Voici mon alliance avec eux. Eux, c'est vous. Je peux voir des mains qui s'élèvent? Eux, c'est moi, c'est vous. Okay? Donc Dieu a passé une alliance avec nous par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi. On est d'accord, on en a parlé, le Saint-Esprit est venu recréer notre esprit, il repose sur nous. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. Ah, je suis devenu aussi un représentant de Dieu qui a ses paroles dans sa bouche. Et ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants. Donc je suis supposé aussi, par le langage qu'on entend être prononcé à la maison, influencer mes enfants, pour que naturellement, ils soient positifs, au lieu de devenir des gens négatifs, parce que tous les jours, ils sont confrontés dans le monde, à l'école, à des personnes négatives. Donc on doit voir la différence, même sur mes enfants, même à la rigueur s'ils ne sont pas convertis, parce que toutes les graines positives qui ont été semées, moi j'ai un de mes enfants, il n'est pas converti, mais dans le cadre de ses amis, il passe pour le gars positif qu'on vient trouver pour se faire consoler et pour recevoir de bons conseils. Amen. Parce que depuis qu'il est petit, il entend des paroles positives. Ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Je ne sais pas qui est-ce qui en est là. Dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. L'alliance dans le sang de Jésus-Christ est indissociable de l'alliance passée avec notre bouche. Amen. Vous voulez qu'on continue sur la lancée d'hier soir et qu'on consacre nos bouches au Seigneur? Alléluia. On veut être lâché dans la nature, mais pas être des gens dangereux. Combien on a de chrétiens dangereux dans nos églises? Mais c'est dangereux aujourd'hui de mettre les pieds dans certaines églises, dans certains milieux. Amen. C'est très dangereux pour un nouveau converti, souvent aujourd'hui, de débarquer dans une de nos églises évangéliques et charismatiques. Il va se prendre la prophétie qui tue de la sœur untel au bout d'une semaine. Il va être invité par le frère untel qui va lui parler de tous les problèmes de tous les gens dans l'église. Il va avoir l'impression que l'église est remplie que de gens à problème. Et ça va continuer. Croyez-moi, si les nouveaux convertis ne sont pas entourés par les bonnes personnes, ils vont vite être entourés par les mauvaises. Amen. Et un nouveau converti, c'est comme un bébé, il va prendre les habitudes de ceux qui l'enseignent. Si je suis un juge, je vais engendrer des juges. Amen. C'est comme nos enfants, s'ils nous entendent dire des gros mots, ben le gros mot va devenir quelque chose de naturel dans leur bouche. Et un gros mot, c'est quoi? Un gros mot, c'est une malédiction. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit que si on dit simplement à son frère Raca, alors Raca, ça peut être Séouane, hein? Eh bien, on mérite de passer un tribunal. Vous ne croyez pas que l'Église aujourd'hui, bon, on veut la gloire de Dieu, pas à n'importe quel prix. L'Église, il faut d'abord qu'elle élève le niveau pour pouvoir goûter la gloire de Dieu. Amen. Sinon, on va faire plus d'enterrements que de guérisons le dimanche. Ananias et Saphira, ils ont seulement raté leur offrande. Vous avez vu ce qui est arrivé? Chez les Corinthiens, il y a des gens qui s'approchaient à la table de la Sainte Cène. Pour être guéri, ils repartaient, ils mouraient peu de temps après ou ils étaient malades. Vous imaginez si on n'élève pas le niveau? C'est peut-être une grâce de Dieu qu'on n'ait pas toute la plénitude de sa puissance au milieu de nous pour l'instant. Parce qu'il se passerait des choses qui ne correspondent pas peut-être à ce qu'on attend. Vous avez eu un bon culte dimanche? Oui, la gloire de Dieu est descendue. Quelle présence de Dieu? Oui, et résultat, 10 morts. Écoutez, moi je ne veux pas faire des enterrements là. Moi je veux des guérisons. Tu ne veux pas des guérisons? Pour l'instant, j'ai peur de faire surtout des enterrements. Hein. Alléluia! Est-ce qu'on peut lever nos mains quelques instants? Oh, Seigneur, alléluia.